Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission un peu spéciale aujourd'hui. Cette semaine s'est ouverte la plus grande exposition jamais organisée sur Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Ça se passe à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. C'est un voyage dans l'univers des elfes et des hobbits. C'est très impressionnant, nous prenons la route de la Terre du Milieu dans un instant. Autre univers au moins aussi fascinant, celui d'André Manoukian. Nous partirons visiter tout à l'heure sa bibliothèque, elle est installée autour d'un grand piano. Et donc, vous entendrez pour la première fois un concert littéraire. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête, bien sûr, pour de bonnes idées de lecture. Et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord donc, le voyage inattendu dans le monde de Tolkien. La Voix est libre. C'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Et nous voilà donc à la BNF, à l'orée de l'exposition Tolkien et donc de la Terre du Milieu, avec le co-commissaire de l'exposition, Vincent Ferré, professeur de littérature à l'UPEC, Université Paris-Est-Créteil, grand spécialiste de Tolkien. Il est venu plusieurs fois nous parler de l'auteur du Seigneur des Anneaux à Europe 1. Et là, bon là c'est Vincent Ferré-Land, vous avez réalisé un rêve là.
Je suis très content de vous inviter ici pour vous montrer le dispositif qui a été mis en place en deux parties dans cette exposition destinée au grand public et aux amoureux de Tolkien, aux curieux, aux enfants, aux adultes. Donc 1000 mètres carrés pour présenter la Terre du Milieu, mais aussi tout le reste de l'œuvre de Tolkien qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus divers qu'on ne le croit souvent en France.
Juste, je précise, c'est la plus grande exposition jamais organisée sur Tolkien, dans le monde.
Oui, tout à fait. La BNF a travaillé en collaboration avec la bibliothèque Bodleian d'Oxford, l'université Marquette aux États-Unis, pour rassembler des pièces qui, pour la plupart, n'avaient jamais été mises côte à côte. Dans 1000 mètres carrés de pièces de Tolkien, de cartes, de manuscrits, de photographies, d'aquarelles, de dessins, et de pièces venues de la BNF et de musées prêteurs qui servent à introduire à l'univers de Tolkien.
D'accord. Donc là, on est au tout début de l'exposition, dans la première pièce. Comment ça s'organise? On va passer d'univers en univers?
Oui. Présenter la Terre du Milieu, c'est se promener dans une série de paysages et d'univers auxquels sont associés des peuples et des histoires. Donc l'exposition commence par une petite présentation de Tolkien, mais assez rapide, parce que c'est l'objet de la seconde partie de l'expo. Et tout de suite, on est mis face aux couvertures, aux projets de couverture de livres dessinés par Tolkien.
Oui, pour le dire Hobbit. Que Tolkien était dessinateur.
Absolument, depuis son enfance. Donc, couverture des livres, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Il était important de partir des deux œuvres les plus connues, publiées en 1937 et 54-55, pour ensuite montrer aux visiteurs la diversité de cet univers.
Alors on entend le papier de soie parce qu'on a eu la chance de visiter avant l'ouverture au public et donc c'est encore un peu protégé. On est privilégié quand même.
Oui, parce que ce sont des pièces qui sortent dans des conditions de protection et de préservation minutieuses.
Un très beau dessin avec une montagne. En premier plan, il y a des arbres et puis tout derrière, une montagne au loin.
Et vous voyez Smaug qui vole.
Le dragon, voilà. Du Hobbit.
Et les aigles qui vont aider le Hobbit. Et ça, c'est un projet de couverture qui a été finalement publié en 1937, de la main de Tolkien, mais aussi avec des annotations amusantes, puisque Tolkien avait envie que le dessin contienne non seulement du vert, du noir, du bleu, du blanc, mais aussi du rouge. Et on voit dans la marge une marque qui est peut-être celle de l'éditeur, qui indique en anglais « ignorer le rouge », parce que pour des raisons de coût, l'éditeur préférait réduire un petit peu la palette, et donc le soleil va être atténué. Mais Tolkien avait effectivement cette capacité à visualiser le monde imaginaire, la Terre du Milieu. Alors même,
pourquoi ça nous paraît familier? Parce que ça a été reproduit déjà sur des couvertures ou parce que c'était tellement écrit de cette manière-là? Il savait tellement bien décrire qu'on s'est déjà fait les images mentales de Tolkien.
Alors c'est un peu tout ça à la fois, mais en même temps, la Terre du Milieu a une histoire assez étonnante. Quand le Hobbit paraît en 1937, à un livre pour enfants, qui est à l'origine une histoire pour ses enfants. Tolkien invente depuis 20 ans des légendes qui se déroulent dans un monde imaginaire, mais qui sont destinées aux adultes. Et donc, l'arrivée du Hobbit en Terre du Milieu, c'est vraiment un hasard de l'histoire. Et Tolkien poursuit l'aventure de Bilbo à la demande de son éditeur, mais sans savoir où il va aller.
C'est... Rappelez quand même, Vincent, avant, comment est née la légende du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ?
Alors, de deux manières différentes. C'est-à-dire que le Hobbit est l'une des histoires que Tolkien inventait pour ses enfants, pour les endormir le soir. Ils avaient vraiment de la chance. Hein. On montre aussi dans l'exposition les lettres du Père Noël, Rover Random, Monsieur Merveille. Mais le Hobbit est son histoire pour les enfants la plus connue. Mais il faut imaginer que ce professeur d'Oxford, qui travaillait énormément, qui faisait beaucoup d'heures de cours, beaucoup plus que ce qui était attendu, qui publiait des livres, des articles savants, dont les conférences font encore date aujourd'hui et font encore autorité, eh bien, le soir, il se transformait en conteur pour ses enfants et il utilisait toutes ses connaissances en littérature médiévale européenne. Il les injectait dans les histoires pour leur donner plus de consistance, de cohérence, de solidité. L'autre méthode qu'il employait, c'est qu'il dessinait des cartes.
Wow.
Ça, c'est celle, la carte de travail du Seigneur des Anneaux à la fin des années 30. Comme il a expliqué dans ses lettres, quand on se lance dans une si longue histoire, il faut faire une carte. Et on voit comment, à partir de la carte qui comporte plusieurs feuillets, eh bien, se déploie le voyage que Tolkien n'avait pas prévu à l'origine. Puisque dans cet univers, Bilbo est allé en ligne droite, si je puis dire, vers la montagne solitaire. Tandis que les hobbits et leurs compagnons vont chercher leur chemin sous la montagne, dans les forêts des elfes, jusqu'en Mordor. Et c'est l'itinéraire de l'exposition.
Ah d'accord, et c'est très émouvant aussi ce document parce que donc il y a plusieurs feuillets rattachés les uns des autres par du scotch.
Voilà.
C'est comment où est-ce que d'où ça vient ? Comment vous avez retrouvé ça ?
Alors, les archives Tolkien sont principalement réparties en deux lieux, la bibliothèque Bodleian d'Oxford qui a travaillé donc avec la BNF et c'était le lieu où Tolkien faisait ses recherches. Donc c'était sa deuxième maison. Et une partie des manuscrits vient des États-Unis, de la bibliothèque de l'université Marquette, qui a travaillé avec la BNF, parce que Tolkien, on l'ignore souvent, mais a eu des difficultés financières tout au long de sa vie. Il a eu des difficultés et pour élever sa famille, il corrigeait beaucoup plus de copies que ce qui était attendu, et il a vendu les manuscrits du Seigneur des Anneaux dans les années 50 pour payer des frais médicaux de sa famille. Il l'explique dans des lettres qui ont été publiées.
Et on pense que ça s'est vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires aujourd'hui ?
Oui, il aurait été le premier surpris. Donc, par exemple, dans cette salle qui est la salle consacrée au Hobbit, on a des manuscrits du Hobbit, des listes de noms propres de personnages, une esquisse de la structure du texte. Et puis, vous voyez, toute cette liste de noms-là, il fait des essais. Il regarde ce qu'il va être porteur comme récit. On reconnaît Dunadan, ça passera dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, des noms de lieux, des noms de villes. Et on voit bien, ça, c'est l'entrée dans l'atelier du créateur. Ce sont les coulisses de l'œuvre. Et évidemment, ça fait partie des documents qui ne sont pas reproduits dans les livres et qu'on va découvrir pour la première fois pour beaucoup de visiteurs.
Il y a un nuage d'au moins une cinquantaine de noms. Là.
Voilà. Et puis, des documents de travail. Regardez, les hobbits, les mesures en taille hobbit. C'est-à-dire, en gros, combien de kilomètres à pied un hobbit peut marcher par jour ?
L'ongle aussi.
Exactement. Toutes les mesures.
Parce qu'il faut rappeler que Tolkien a réinventé tout un monde, tout un univers, des langues, des religions, des chants et aussi les mesures.
Des mesures, parce qu'il fallait reconfigurer tout l'univers de la Terre du Milieu à taille de Hobbit.
On souffle un peu, là, on va se caler dans la comté quelques minutes et on revient tout de suite pour continuer notre voyage. Merci Vincent Ferré, à tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours perdu dans la Terre du Milieu. Enfin, je dis perdu, non, parce qu'on a un guide, Vincent Ferré, le co-commissaire de l'exposition et grand spécialiste de Tolkien. Là, dans quelle salle on se trouve, Vincent
Ferré ? Alors, avec tous les arbres et les éléments naturels, aucun doute possible, on est sur les terres des elfes, en particulier en Lorienne, mais aussi, on va passer d'abord par chez Elrond, si vous voulez bien, dans ce lieu absolument merveilleux qui s'appelle Rivendell, Fandval en français, et qui, donc ce voyage commence par cette aquarelle dessinée par Tolkien en 1937 pour le Hobbit, mais ce lieu reviendra dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un relais entre l'histoire pour les enfants et le récit très long pour les adultes.
Une vallée encaissée au milieu de laquelle coule une rivière.
C'est la dernière maison hospitalière où Elrond accueille les voyageurs, les réconforte et les conseille.
Et ça, on l'a trouvé où ? Ça appartient à la famille ?
Alors, c'est en dépôt à la Bodléiane, et c'est une illustration qui a été publiée dans Le Hobbit en 1937. Et Christopher Tolkien, donc le troisième fils de J.R.R. Tolkien, a raconté comment, petit garçon, une nuit, il s'est réveillé en pleurs, cherchant son père, et il l'a retrouvé dans son bureau, penché sur cette aquarelle qu'il était en train de peindre. Et Christopher Tolkien a raconté comment ses pleurs de petit garçon, consolés mais quand même un peu effrayés, se sont mêlés à l'eau de la rivière. Voilà, c'est presque aussi beau que le récit.
Très poétique.
Donc, Elrond, mais aussi le...
Alors, je rappelle qu'il y a des bruits de papier de soie et de plastique parce qu'on est juste avant l'ouverture. Voilà. Et ce sont des documents, on l'a pas assez dit, mais c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça.
Et on ne le reverra jamais. Il faut vraiment bien en profiter. Moi-même, je pense venir à peu près tous les jours pour essayer de...
Alors là, qu'est-ce que c'est que ce tableau, l'arbre des langues ? Ça fait un peu peur. Hein. Il y a des flèches, des mots partout.
Donc, comme vous l'avez dit, Tolkien inventait des lieux, des peuples, des histoires, mais aussi des langues. Et ces langues évoluent. De même que le français moderne n'est pas la même chose que l'ancien français et le latin. Tolkien, qui était professeur à Oxford, spécialiste de langue et littérature médiévale, anglaise et européenne plus largement, a inventé une sorte d'histoire des langues, de généalogie, alors d'arbres, parce qu'on part du Valarin, on voit les noms des différents peuples, avec des lieux associés, comme le Beleriand, par exemple, et puis, comme vous le voyez, plein de branches de langues en fonction de la ville ou du lieu où sont parlées ces langues. Et j'aime beaucoup, dans la légende, il est indiqué, ces langues sont encore parlées pour les dernières. Par exemple, en Valinor, la Terre des Dieux, on parle encore l'Eldarin.
Ces langues demeurent dans les mémoires et les écrits.
Voilà.
Par exemple, le Golodrin ancien demeure dans les écrits, mais n'est plus parlé.
Tout à fait. Je vous en passerai un exemplaire, si vous voulez.
C'est quand même émouvant, quand même. C'est la définition de l'écrivain, ce côté démurge, quasiment Dieu, qui a créé un monde, un univers, des langues, une religion, tout.
Vous avez raison de mentionner Dieu, c'est-à-dire que la foi de Tolkien est très discrète dans ses écrits, mais il explique dans une de ses conférences que l'écrivain est une personne qui crée à partir du monde créé par Dieu, ce qu'il appelle la subcréation, la création au second degré. C'est une redistribution des cartes, en fait.
Oui, parce qu'en fait, il recrée aussi à partir des images du Moyen-Âge, des légendes nordiques, et, de ce qui existe. Il refait un monde.
Et de sa visite de lieux dans le monde réel qui l'ont inspiré. On sait que telle scène où sa femme, jeune femme, dansait, a été une source d'inspiration pour lui, ou des cavernes.
Là, on a carrément des bijoux d'elfes.
Voilà. Alors, d'elfes, on ne sait pas, mais en tout cas, la BNF a choisi d'inclure dans l'exposition des objets, des artefacts qui permettent de mieux visualiser le monde de Tolkien. Il faut vraiment se rendre compte que Tolkien était un Anglais et que son univers de référence, littérature nordique, la littérature médiévale anglaise, n'est pas celle que l'on connaît le mieux en France. Nos références, c'est plutôt le roi Arthur, par exemple, donc il fallait aider à visualiser. Ben là, vous soulevez un tissu qui masque un des trésors de l'exposition, le livre de Mazarbul, un artefact venu directement de la Terre du Milieu, que Tolkien a fabriqué en espérant l'inclure dans Le Seigneur des Anneaux.
Pour qu'on les décrive un peu, je vous laisse faire.
3 pages de manuscrits, dont plusieurs versions successives sont présentées au mur et dans la vitrine, la version finale. Des pages déchirées avec du sang, de l'encre rouge, puisque ces pages sont découvertes par les héros dans le récit après une bataille. Donc il y a eu des morts dans la Moria, dans le royaume souterrain de la Moria. Et Tolkien voulait que les lecteurs découvrent ce document historique qui viendrait rendre vraisemblable. Mais comme dans Les Liaisons dangereuses, on nous dit au début que les lettres ont été découvertes et qu'elles sont éditées. C'est le même genre de procédé. Sauf que là, donc la BNF a juxtaposé la transcription en un et la traduction en anglais.
Et ça, donc, ce sont les manuscrits originaux. Voilà. C'est la première fois qu'on voit ça en France.
En tout cas, c'est la première fois qu'on les voit en France. Et c'est la première fois qu'on voit côte à côte plusieurs versions venues des États-Unis, de la bibliothèque Bodléiane, puisque Tolkien était extrêmement minutieux dans son travail. Et là, vous avez une ébauche de chacune des pages. On a jusqu'à 3 versions différentes. Et là, ce que vous avez, c'est un autre exemple de l'écriture naine. C'est l'inscription qu'on trouvera finalement sur la tombe de Balin. Et comme vous le voyez, ça a été barré, corrigé, retravaillé.
Et quel est-il écrit sur la tombe de Balin ?
En fait, il est indiqué Balin, fils de Fundin, seigneur de Moria.
Et vous parlez, vous, la langue elfique et la langue des nains ?
Ça ne se parle pas vraiment, ça se lit, ça se décode, mais il y a tellement de versions et d'étapes et de variantes que je passe mon temps à oublier tout ce que je sais. Mais heureusement, il y a d'excellents spécialistes en France qui nous ont beaucoup aidés.
Mais en déchiffrant un peu, vous êtes comme un latiniste, vous pouvez...
On va dire oui, Nicolas.
C'est super, ça.
Europe 1,
14h-15h,
la voie est libre.
Nicolas Carreau.
Bon, faut qu'on avance, Vincent, parce que là, on se fait la terre du milieu en 20 minutes, donc faut qu'on trottine un peu, je suis désolé. Mais là, on vient d'arriver dans une salle consacrée à la magie, c'est ça ?
Absolument. Avec le duo reconstitué, Saruman-Gandalf.
Saruman, le méchant, Gandalf le gentil, si on...
Sauf qu'on ne le sait pas au début. C'est-à-dire qu'au début du Seigneur des Anneaux, Saruman est une figure de sage, c'est même le supérieur de Gandalf. On ne sait pas trop qui sont ces personnages, sinon des détenteurs de connaissances qu'ils transmettent aux gens qu'ils conseillent. Gandalf a l'air un petit peu anodin au début du Seigneur des Anneaux. Il fait des feux d'artifice, tandis que Saruman est quelqu'un de très impressionnant, à la parole rare. Et en fait, au fil du récit, Gandalf va décider de prendre fait et cause pour les héros, tandis que Saruman succombe à la séduction du pouvoir, à la séduction de l'anneau, et décide d'essayer de prendre l'anneau pour lui-même, parce qu'il il succombe à l'envie d'utiliser cette arme.
Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les grimoires de Gandalf ou Saruman ?
Pour montrer quelles pouvaient être les représentations médiévales des tours, des magiciens, la Bibliothèque nationale expose des ouvrages magnifiquement enluminés pour aider les lecteurs à visualiser ce que pouvaient être les référents de Tolkien qui passaient son temps dans des bibliothèques ou à faire cours.
Et là, donc, on arrive dans la salle consacré
au Mordor,
au grand
c'est le
méchant.
Terme du voyage.
Et qu'est-ce que c'est que cette image très impressionnante ?
Ça va être une surprise pour beaucoup de visiteurs, puisque contrairement à ce qu'on croit souvent savoir, et en raison des adaptations cinématographiques, Sauron n'est pas un œil, mais un être pleinement incarné. Et ce qui a été mis en valeur, mis en avant, c'est son bras, sa tête, son bras qui s'étend sur la Terre du Milieu et qui essaie d'étendre son emprise depuis le Mordor, qui se trouve au sud-est. Donc dans cette salle circulaire, vous nous voyez venir, figure un certain nombre d'éléments qui vont permettre de représenter le terme du voyage, le lieu le plus dangereux, un lieu aussi inspiré par l'expérience que Tolkien a faite pendant la Première Guerre mondiale. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce manuscrit où figure un chapitre du futur Seigneur des Anneaux et un dessin. Donc c'est l'antre de l'araignée à Règne, un dessin en couleur. Tolkien avait besoin d'imaginer concrètement le cadre de l'histoire pour être plus réaliste.
Et vous avez même impressionnant, il y a le dessin sur un côté et au centre de la page et le texte tout autour.
Exactement. Et vous avez même le plan des souterrains de l'antre d'Araigne, parce que Tolkien a besoin de savoir à quelle vitesse cette araignée géante se déplace.
Nous, on va arrêter momentanément notre itinéraire ici. On se retrouve dans un instant pour parler de l'homme, de Tolkien lui-même. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, consacrée aujourd'hui à la visite de l'exposition Tolkien avec notre guide, le co-commissaire de l'exposition, Vincent Ferré, grand spécialiste de Tolkien. Et là, on se retrouve dans la dernière partie de l'exposition consacrée à Tolkien lui-même. Et il y a une belle photo en noir et blanc de Tolkien avec sa pipe et avec son regard là, qui a l'air d'être d'une bienveillance, d'une gentillesse. C'est toujours ce que je me suis dit quand j'ai vu les photos de Tolkien. C'est vrai ou pas ?
C'est exactement l'impression qui se dégage, non seulement des photos, mais de l'interview de la BBC qui est diffusée en partie, et aussi de ses lettres. Tolkien a toujours pris beaucoup de temps, alors qu'il manquait de temps. Il a pris beaucoup de temps pour répondre aux lecteurs qui lui ont écrit sur plusieurs décennies, demandant des précisions sur cet univers, sur ce que devenait tel Hobbit. Et ce plaisir qu'il avait à partager une caractéristique du professeur, de l'éditeur de textes médiévaux et de l'auteur d'histoire qu'il a partagé avec des générations.
Là, il a à peu près 65-70.
Voilà, c'est une photo effectivement où il approche de la fin de sa vie.
Et en face, il est avec une bande de copains. Qu'est-ce que c'est que cette photo magnifique ?
En fait, il était souhaitable dans l'exposition de bien montrer que Tolkien était un homme de son siècle. Il ne vivait pas du tout en Terre du Milieu. Il a choisi de donner cette forme à son histoire, mais il était très ancré dans le XXe siècle. Et là, on voit un groupe de 5 amis étudiants à Oxford, avant la guerre, 1911, lorsqu'il arrive à Exeter College, qui est l'un des collèges d'Oxford, là où est passé, par exemple, William Morris, qui a influencé beaucoup Tolkien dans son style de récit. Et c'est avant le carnage de la Première Guerre mondiale dont Tolkien a réchappé par le plus grand des hasards. Il est tombé malade. Et c'est la raison pour laquelle les deux photos figurent à côté d'une chronologie qui rappelle les grandes dates de la vie de Tolkien et aussi tous les textes qui ont été publiés après sa mort par son fils, Christopher Tolkien, qui aura très bientôt son anniversaire et 95 ans et qui est une personne qui a encouragé avec beaucoup de bienveillance cette exposition.
Donc Le Hobbit, c'est 1937, Le Seigneur des Anneaux,
54-55. Et en fait, sans Christopher Tolkien, on pourrait s'arrêter là. Donc à droite figure la vingtaine de livres.
Il y en a beaucoup plus posthumes.
Oui, parce que Tolkien écrivait mais publiait peu et il rangeait dans un tiroir. Et son fils Christopher a classé, ordonné et déchiffré. Il y a jusqu'à 7 couches d'écriture sur un manuscrit.
Et pourquoi il publiait si peu ? Parce qu'il n'en était pas satisfait ou parce que... Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il écrivait pour lui, pour ses amis, pour son fils. Et il avait l'habitude de se retrouver avec ses amis dans un des pubs d'Oxford. Et il lisait les textes et après, mission accomplie.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les plans, les fiches des personnages ?
Dans la dernière salle intitulée « L'œuvre d'une vie », vous avez côte à côte les premiers dessins datant de 1911 et aquarelles et représentations mentales d'univers imaginées par Tolkien. Et puis des documents qui se rapportent au Seigneur des Anneaux. Des notes, par exemple, dans lesquelles Tolkien s'interroge sur le nom à donner au personnage. Donc on apprend que Frodo a failli s'appeler Bingo. On l'a échappé belle quand même. Et puis il se demande ce qu'il va faire du nécromancien. Est-ce que l'anneau va être utile ?
Il y a un plan barré avec des ratures un peu partout. En dessous, il y a des feuilles à 4 en format paysage avec des tableaux très bien faits. Avec, c'est quoi ? C'est par personnage ?
Ça, chacun des personnages a
telle date.
C'est
la chronologie, en fait.
C'est la chronologie, d'accord. Une sorte de tableau permettant de visualiser la chronologie. Et à côté, vous avez ce qui est célèbre chez les fans de Tolkien, c'est-à-dire un petit document dans lequel il a noté les phases de la Lune. Pour que lorsque tel personnage regarde une lune pleine et qu'un autre regarde une lune pleine, on soit vraiment raccord au niveau des temps. Et ici, vous avez les distances.
Les distances.
Franchies en Terre du Milieu par les orques, par les hobbits. Voilà, il fallait absolument. En fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman historique, sauf que le monde est imaginaire.
Et là, on arrive à la fin de l'exposition, à la fin de notre voyage, Vincent Ferré. Qu'est-ce qu'on trouve là ?
L'exposition s'achève par un clin d'œil au début et à la naissance de cet univers, sont présentés des dessins et la couverture du livre des Contes perdus, les récits que Tolkien a dictés à sa femme alors qu'il était convalescent, qu'il était revenu du front malade. Et c'était une manière de montrer que l'œuvre de Tolkien a occupé 60 années de sa vie. Et on souhaitait faire figurer également en bonne place une histoire d'amour entre un homme et une elfe qui est aussi une image de sa propre relation avec sa femme Edith, puisqu'on sait que la mythologie est née de la vision de sa femme dansant dans une clairière.
Eh bien, on va se quitter sur cette belle vision. Merci beaucoup Vincent Ferré pour ce beau voyage en Terre du Milieu. Et vous pouvez visiter l'exposition de la BNF jusqu'au 16 février. J'en profite pour vous redire que Le Seigneur des Anneaux a été retraduit, notamment avec la participation de Vincent Ferré. Et ça change vraiment tout. Les chants, les poèmes, tout a été refait. Il faut le lire dans cette version-là. Et vous pouvez visiter l'exposition jusqu'au donc 16 février. Merci beaucoup, Vincent Ferré.
Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1, mais pour quelques instants seulement, puisque nous partons tout de suite visiter la bibliothèque d'André Manoukian, qui va nous jouer des romans au piano. Si, si.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue. André Manoukian propose en ce moment son nouveau spectacle, Le Chant du Périnée, au Théâtre de l'Œuvre. J'ai profité de l'occasion pour lui demander de nous faire visiter sa bibliothèque. Il a accepté et je parie que vous n'avez jamais entendu Le Voyage au bout de la nuit, version piano. C'est maintenant. Bonjour André Manoukian.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Évidemment, ça étonnera personne quand on est entré. Alors, tout en haut d'un petit immeuble à Paris, il y a un piano à queue qui est là. Et en fait, j'ai une seule question pour l'instant. C'est comment vous avez réussi à monter ce piano dans le tout petit escalier qu'on a arpenté ?
En fait, il est rentré par la fenêtre. C'est une grue qu'il a portée. Et c'est le deuxième piano que j'ai ici, donc chaque fois c'était un petit peu un événement. J'ai photographié une immense flèche de grue qui s'installe en bas et qui va monter jusqu'au quatrième étage et le piano pend et il rentre par la fenêtre. Sans les pieds, un piano à queue, ça peut s'introduire n'importe où.
Et alors c'est un chouette appartement avec une... Donc là on est sur une mezzanine, il y a votre piano, il y a une cuisine ouverte et sur la droite, il y a une pendule gigantesque qui doit faire 2 mètres de diamètre. Ça aussi, ça n'a pas dû être facile à monter.
Ça aussi, c'est monté par la fenêtre. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Elle n'est même pas à l'heure.
Elle n'est même pas à l'heure, 10h10. Mais elle vient d'un beffroi du Nord. Et puis voilà, ça ne sert à rien, puisque effectivement, elle ne tourne pas. Le mec, il m'a dit, on peut vous l'animer si vous voulez, mais je ne vous conseille pas. Je dis, bon, voilà. Peut-être que j'ai des problèmes avec le temps. Donc je demande que le temps s'arrête de temps en temps.
Vous avez un très, très beau piano. J'y reviens, mais... très très beau piano à queue noire et vous avez enlevé la partie supérieure, comme je sais pas comment ça s'appelle, juste dans la partie supérieure des touches.
Oui, toutes les
touches. On voit le mécanisme.
Bah, c'est pour que le son, en fait, j'en profite mieux comme ça, voyez-vous. Le son me vient ici par en dessous. Je vois la mécanique et puis j'ai supprimé le pupitre aussi au-dessus pour glisser mes mains et pour étouffer les cordes de temps en temps. On dialogue tout le temps avec.
Ouais,
il est plutôt organique. Il y a des micros à l'intérieur. Il y a des partitions dessus.
Alors oui, justement, on est là pour parler des livres. Et évidemment, les livres pour vous, c'est aussi les partitions. Alors il y a des manuscrits même de partitions. C'est assez émouvant. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs?
Ah, ça, c'est moi. C'est ma musique que j'écris. C'est l'idée d'un morceau.
Et vous entendez en lisant ou pas?
Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est le dernier album que je suis en train de composer. Là, celui-là, ouais, ça fait comme ça, ça. Il y a des indications, fa dièse phrygien de temps en temps pour les impros et tout ça.
Vous pouvez alors vous mettre au lit avec une partition comme d'autres se mettent au lit avec un roman avant de dormir? Vous pouvez vous écouter un album en regardant les pages?
Ah oui, enfin m'écouter, du coup c'est différent, mais j'aime bien regarder les choses et puis un petit peu essayer de les analyser par exemple.
Vous avez des classiques, là.
Ouais, j'aime bien reprendre du Beethoven, par exemple, ou Bach, et les analyser et les transposer. Alors, en gros, il y a une cadence chez Beethoven qui est vachement bien. Je la fais dans toutes les tonalités. En gros, ça fait ça. Ça vient de la 8e sonate de Beethoven.
Ça, c'est la partition.
Et c'est ça. Et puis, alors, du coup, après, je regarde ce qui se passe. Et puis, je vois ça. Et puis, je me dis, tiens. Et puis, je continue. Et puis, je continue. Et je continue. Et du coup, tous les jours, je fais cet exercice-là d'une cadence de Beethoven que je multiplie par les 12 tonalités. Donc, ça fait travailler à la fois les doigts et en même temps la tête un petit peu.
Et alors, tout autour du piano, il y a des livres sur les murs, dans une jolie bibliothèque, d'ailleurs rétro-éclairée. Ça, c'est toujours agréable pour quand on cherche un livre.
Mais ouais.
Comment ils sont rangés? Est-ce qu'il y a, bon, il y a une organisation ou pas? Comment c'est conçu?
Alors, c'est un vrai foutoir. J'ai voulu les organiser en commençant ici par les ouvrages philosophiques, n'est-ce pas? Et en fait, il faut vous dire que j'ai hérité il n'y a pas très longtemps de la bibliothèque de mon père. Et toute sa vie, il a essayé de classer ses bouquins. Et une fois, c'était moi, j'allais chez lui à Lyon, puis j'ai commencé à l'aider à classer, il était tellement content. Et puis je m'aperçois que je refais la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont là en foutoir. Si, ici, vous avez quand même les philosophes, quoi, vous voyez
Platon,
là, vous avez Platon, Lucrèce. Qui est là, voilà, exactement. Lucrèce, c'était un de ses philosophes préférés.
J'ai vu tout Nietzsche, juste sur le côté, là-bas aussi.
Voilà. Est-ce que j'ai...
En tout cas, il y a beaucoup d'ouvrages de Nietzsche. Et ouais. D'ailleurs, ils sont en version bilingue. Ainsi parlait Zarathoustra.
Parce qu'il était germaniste et il adorait les lire en allemand.
Ah, ça, c'est à votre père aussi ?
Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. Et ce que j'adore de temps en temps, c'est m'en choper un et puis regarder avec ses annotations à lui. Pour le coup, c'est super émouvant parce qu'il avait l'habitude de tout souligner.
Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, effectivement, voilà, griffonnent dans les livres et ceux qui ne supportent pas de mettre même un peu de crayon de bois sur leurs livres.
Ah ouais.
C'est quoi, vous, votre religion là-dessus ?
Ah non, moi, ma religion, c'est que... Alors, j'aime bien les triturer, hein, je leur... mais non, je n'ai pas le courage de faire comme lui faisait, les annotations. Mais je pense que s'il écrivait, s'il réécrivait par-dessus, voire parfois il recopiait des passages entiers sur des cahiers, c'était aussi pour se rappeler, quoi. S'il pouvait... C'était une manière de se, se mémoriser tout ça. Et moi, j'ai une espèce de mémoire un petit peu plus sélective, je ne sais pas. J'arrive à capter les... Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais ouvert La naissance de la tragédie de Nietzsche. C'était à lui, hein ?
Quand j'étais petit.
Oui, oui, oui. Et j'avais lu les deux premières pages. Et il se trouve que dans les deux premières pages de La naissance de la tragédie, il y a tout. C'est-à-dire qu'il vous parle, Nietzsche, de l'esprit apollinien, de l'esprit dionysiaque, de l'esprit apollinien qui est plutôt vertical, qui élève et qui extrait l'homme, qui l'individualise, et l'esprit dionysiaque, l'esprit grégaire. Et qu'au fond, la tragédie, c'est la confrontation entre cet esprit qui fait que, qui vous isole du groupe, c'est Antigone, genre si j'écoute mon cœur, je n'obéis pas à la loi du clan, et puis la loi du clan qui est plutôt horizontale et transversale. Toutes les tragédies grecques sont... l'homme confronté entre ces deux pulsions.
La sagesse et le désir ?
La sagesse, c'est l'instinct, la...
le désir. La raison et le cœur ?
Ouais, 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 ouais.
Vous êtes plutôt côté... Non, vous êtes les deux aussi, ouais.
Plutôt cœur et plutôt parfois un peu même cul, mais... Enfin, je veux dire... non, je veux dire, j'aime pourquoi bien la sensualité des choses.
Et comment vous réconciliez alors ?
Moi,
les deux.
Bah, par la musique, parce que finalement, l'art, c'est ce qui va réconcilier ces deux tendances-là. On va dire que c'est les deux tendances qui nous animent à tout le temps. Mais il n'y a pas de jugement chez les Grecs. La tendance apollinienne, elle est importante, mais la tendance dionysiaque, elle est importante aussi parce qu'il faut qu'on retrouve notre esprit grégaire, qu'on danse ensemble, on fait qu'il y ait des libations. Et c'est après, avec les chrétiens, que ça s'est un petit peu fourvoyé avec la musique de Dieu et la musique du diable. Mais chez les Grecs, il n'y a pas ce jugement. On a besoin, l'homme, c'est un être qui est à la fois grégaire et en même temps, c'est un être solitaire.
J'imagine que pour vous, la musicalité des mots, ça a un vrai sens. Vous entendez la musique des mots quand vous lisez un bon écrivain ?
Ah ouais, il y a une rythmique qui est formidable et qui nous emporte. Je trouve que c'est le style, c'est Céline qui disait des écrivains, il y en a des centaines par siècle. Des gars qui ont du style, au XXe siècle, il y en a eu deux, Proust et moi.
Je ne connaissais pas. Ça lui ressemble bien.
Le style.
Vous aimez Céline ?
Ouais.
Pour son style ?
Bah, évidemment. Non, c'est un écrivain immense. Après, toutes les conneries, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, c'est lui, il invente l'écrit parlé. Quoi. Et puis, il invente un langage. Victor Hugo aussi, d'une certaine manière. C'est la richesse. Victor Hugo, c'est le classicisme qui va jusqu'au bout, jusqu'à sa limite. Après, on ne peut plus faire ça. Après, il y a Proust qui va faire des phrases qui vont durer trois pages avec sa pensée en train d'observer. C'est parce qu'il est malade. Enfin, voilà, j'imagine que c'est parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est asthmatique, c'est parce qu'il manque de souffle qui fait justement ces phrases qui demandent un souffle de dingue.
Sans respiration.
Ouais. Et puis, tout le contraire, Céline, avec très peu de mots qui vous clouent sur place.
Est-ce qu'il y a des phrases, des musiques de mots qui vous donnent envie de poser le livre pour vous mettre au piano qui est juste à côté, pour essayer de restituer d'une certaine manière le texte ou la musique que vous venez de lire ?
Non, ça, je peux pas faire ça et j'oserais pas le faire. Parce que c'est...
Je reformule ma question. Est-ce que quand vous composez la musique d'un auteur, d'un grand, d'un Céline, d'un Houellebecq, d'un Proust, va ensuite contaminer votre propre rythme ?
Ah, bah, c'est sûr que si je veux être un tout petit peu concis et pas bavard, je vais plutôt penser effectivement à ces gars qui font des phrases très courtes. Hein. Laurent Godet, Céline, des phrases chocs comme ça qui sont en pleine d'action. Ça, j'aime beaucoup.
Voyage au bout de la nuit, vous savez jouer au piano, par exemple ?
Oh non, un voyage au bout de la nuit, putain. j'aurais presque envie de faire un mélange de dissonance. Et de super sobriété. Donc, là, on est dans un accord parfait, mais il y a ce demi-ton qui vient tout péter. Et puis, en même temps, qui marque un petit peu l'errance. On ne sait pas très bien dans quelle tonalité on est, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est en train de se chercher, quoi. Après, il va peut-être un peu s'énerver. Il est un peu seul, hein, le gars. Bardamu.
Super, merci. Je vois aussi beaucoup, mais je m'y attendais, de biographie ou d'autobiographie de musiciens. Il y a Duke Ellington, il y a Aznavour. Pourquoi les musiciens ont toujours des vies extraordinaires? Je pense à Bob Dylan, qui est devenu même prix Nobel de littérature, et qui a écrit son autobiographie. Life de Keith Richards, c'est un grand livre, et une vie combien romanesque. Comment vous expliquez ça?
Ces musiciens-là dont vous parlez, effectivement, ils ont un destin exceptionnel parce qu'ils manient des forces qui sont balèzes. Vous savez, il y a la légende des 27 ans, hein, tous ces grands artistes qui n'ont pas...
Le club des 27,
hein, c'est Jimi Hendrix, jusqu'à la dernière, c'était Amy Winehouse, il n'y a pas longtemps. Janis Joplin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, ils sont tous partis des excès de la drogue ou de l'alcool ou tout ce que vous voulez, mais si on pense à Michael Jackson ou à Prince, ils sont morts, ils avaient 50 piges, c'est super jeune, quoi. Le prix à payer, c'est ça. À un moment donné, on rentre... je ne sais pas si vous avez déjà touché quelqu'un qui sort de scène. Vous avez l'impression, quand vous le touchez juste et qu'il vient de sortir sur la scène, qu'il est habité d'une énergie de dingue. C'est tous les gens qui sont là, quoi. Donc, on n'est pas dans un état normal. Il faut un petit moment pour qu'on redescende, comme si l'énergie de tous les gens qui étaient là, elle vous habitait. Alors ça, c'est OK, ça peut être formidable. Mais à un moment donné, quand vous n'avez plus ça, vous tombez en dépression. Donc, c'est pour ça qu'on a des vies qui ne sont pas normales. On deal avec des émotions. On est des passeurs, on le fait inconsciemment quand on est jeune. Et puis après, quand on croit qu'on a les recettes, c'est là qu'on connaît nos premiers échecs, parce que tu crois que tu as tout compris, puis tu n'as rien compris du tout. Et après, il faut retrouver cette innocence. Donc, il faut se mettre dans des états pour composer, sans substance. Il faut être calme, il faut... avoir l'esprit ouvert, il faut laisser venir les choses à soi. Et puis voilà, c'est toutes ces choses qu'on manipule. Et ça peut être un mystère pour les gens en se disant, mais pourquoi eux, ils font ça et pas nous? Après, il y a tout un débat. Hein. Moi, je pense que chacun est capable de le faire, mais c'est peut-être une question d'éducation, de chance, de rencontre. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que toutes ces autobiographies sont fascinantes.
Merci beaucoup, André Manoukian. On vous laisse au milieu des vibrations de votre piano et de tous ces livres aussi.
Merci à vous. C'était waouh. Un voyage.
Merci.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Julien Or pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouveau spectacle d'André Manoukian au Théâtre de l'Œuvre, Le Chant du Périnée. Restez là, les libraires de La Voix et Livre sont en train de s'installer. Ils ont apporté chacun un livre avec une mission, vous donner envie de le lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans. On les en remercie. Aujourd'hui, Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris est avec nous. Et Christophe Daniel, lui, il vient de la très jolie librairie La 25e Heure dans Paris 15e. Salut les libraires.
Salut. Bonjour.
Nicolas. Lamartine, c'est joli aussi, Stanislas. D'ailleurs, on commence avec vous, Stanislas. C'est un dictionnaire.
Oui, le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale de Charles Danzig aux éditions Grasset. Mm-hmm. Alors, il y a 14 ans de ça, Charles Danzig avait publié le dictionnaire égoïste de la littérature française qui avait été couronné.
Oui, ça me disait quelque chose, d'accord.
Voilà. Il avait eu le prix Décembre, le prix Elle et le prix de l'Académie française. Et ça avait été un gros succès public. 14 ans plus tard, il revient avec donc son pendant international, on va dire, et qui est, une fois de plus, une merveilleuse promenade en littérature mondiale, mais pas n'importe laquelle, celle de Charles Danzig. car la force du livre, et c'est d'ailleurs marqué dans le titre, c'est marqué égoïste, et la force du livre, elle est là. C'est-à-dire que ce n'est pas le énième pensum sur l'histoire de la littérature, ce sont les choix de Charles Lansing, érudits, brillamment écrits, drôles, féroces, par moments.
Lui-même est écrivain.
Lui-même est écrivain et c'est un brillant essayiste. Et résultat, vous avez ce livre qui est à la fois un livre magnifique à s'offrir et à offrir, et en même temps une porte d'entrée sur plein d'œuvres. Mmh. Je vous conseille notamment, lisez l'article sur Emily Dickinson. Il est impossible, une fois que vous avez terminé ces quelques pages, de ne pas acheter l'intégrale de la poétesse.
Il y a qui d'autre ?
Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des grands. On a Tolstoï, on a Shakespeare. Et imaginez, les articles, notamment, effectivement, Tolstoï et Shakespeare, sont absolument remarquables. Alors que vous imaginez que ce n'est pas le premier à écrire sur ces deux grands auteurs. Mmh. Et il réussit, mine de rien, à mettre sa patte là-dedans. On retrouve une grande galerie de personnages. Il a des coups de griffe assez sentis. Par exemple, Hemingway prend cher dans le livre.
Quelle horreur.
Voilà, et tout ça est aussi
comment
agrémenté.
Comment peut attaquer Hemingway, ça va pas ou quoi ?
Alors on en discute. Et qui est agrémenté d'articles, on va dire, thématiques. Vous avez par exemple l'article délicieux sur les clichés de la traduction, ou l'article non moins délicieux sur les nuances en littérature, qui sont très très drôles. Et tout ça crée effectivement une somme, le livre est assez gros, une somme, mais alors qui semble inépuisable, d'un des grands passeurs.
En général, dans ce genre de livre, on se dit toujours que tiens, il manque celui-là ou il manque celui-ci, forcément. Vous avez eu un regret ?
En fait, ce n'est pas du tout le panthéon que j'ai. En fait. Donc, il manque effectivement, il y a notamment du côté des Américains, on n'est pas du tout sur le même angle de vue.
Mais c'est un dictionnaire égoïste.
Voilà. Et en fait, on n'a pas envie de râler. C'est ça qui est fort avec Charles Lansing, c'est qu'on n'a pas envie de râler sur ce qu'il oublie, mais on a envie de découvrir ce qu'il nous donne.
C'est un beau compliment. Christophe Daniel, à vous, une grande auteure chez un grand éditeur.
Voilà. Alors, la grande auteure, c'est Nina Allan. L'éditeur, c'est Tristram.
Qu'on adore.
On remercie les éditions Tristram pour tout ce qu'ils font et pour suivre l'œuvre de
sont
Nina
deux,
Allan.
Du côté de Hoche.
De Hoche, dans le Gers.
Ils font des bijoux.
Ils font des bijoux, à chaque fois. Et alors, ce bijou, c'est La Fracture. La Fracture, un roman étonnant qui commence... on est dans un petit village des environs de Manchester. C'est l'été 1994. Une famille, la famille Roanne, le mari, Raymond, Marjorie, la femme, et les deux ados. L'ado aîné, c'est Julie, elle a 17 ans. Elle a des relations un peu compliquées comme tous les ados avec leurs parents à cet âge-là. Un samedi soir, elle quitte le domicile et elle disparaît. La police est prévenue, investigation, enquête. On ne trouve aucune trace de Julie. Et tous les membres de la famille vont vivre cette fracture, chacun de sa façon. La mère va faire le deuil assez rapidement de sa fille. Le père, lui, va constamment croire en la survie de Julie. Et la petite sœur, elle, va essayer de vivre sa vie, mais à l'ombre de ce fantôme. 20 ans après, chez Selena, donc la petite sœur, le téléphone sonne, c'est Julie. Voilà. J'en dis pas plus sur... Je veux simplement dire qu'au départ, on est dans un récit du le mystère d'une jeune fille disparue, qui n'a pas
peu
forcément
polar.
Un peu polar. Mais très rapidement, on bascule dans un roman totalement inattendu, dans ce qu'on peut appeler la littérature de l'imaginaire.
Eh bien, ça donne envie.
Et Nina Allan, avec brio, utilise toutes les cordes narratives, que ce soit le journal intime, les coupures de journaux, tout ce qui est possible d'utiliser, et elle le fait avec brio. Et c'est un livre haletant et totalement incroyable.
La Fracture, donc, de Nina Allan, c'est chez Tristram, traduction de Bernard Sigaud et Stanislas, je rappelle, Charles Danzig, dictionnaire égoïste de la littérature chez Grasset. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, le livre que vous nous présentez s'appelle « Les chasseurs de loups » de James Oliver Curwood.
Oui, je vous emmène Nicolas dans le Grand Nord canadien, sur les traces de Roderick, un jeune homme de 18 ans. Alors lui, il a décidé vraiment de découvrir le quotidien des trappeurs. On est au début du XXe siècle, Roderick ne part pas seul dans cette aventure. Wabi, son ami, descendant d'une famille d'Indiens, l'accompagne. Il y a aussi le vieux guide Mukoki avec eux. Ces trois-là ne vont pas faire du tourisme dans l'immensité blanche, ils vont chasser le loup. Pour chaque scalp de bête ramené, une récompense, $15 versée par le gouvernement. Mais pour ramener ces scalps, ce trio va prendre bien évidemment de très très gros risques.
Par exemple, vous nous donnez une de leurs aventures.
Bien sûr, ça démarre en trombe, Nicolas. La scène inaugurale donne le la des aventures de Rod, Wabi et Mukoki. Ils doivent faire face à une meute de loups très importante, 50 bêtes féroces à affronter, c'est beaucoup. Et Rod est diminué pour ne rien arranger. Emily, Elio et Ryan vous lisent la suite.
À ses cris, le garçon tombé dans la neige se releva en chancelant malgré son état, répondit faiblement et repartit. Deux ou trois minutes plus tard, Wabi le rejoignit.
« Tu vas y arriver, Rod ?»«
Je crois que non. »
Le jeune indien posa sa carabine et s'agenouilla à côté du blessé pour lui donner du courage.
« On y est presque, Rod. On peut y arriver. On se cachera en haut d'un arbre. Allez, accroche-toi à mes épaules, vite !»
Derrière eux retentit de nouveau le cœur des loups, plus fort qu'avant.
Et ce n'est que le début de leurs aventures, d'autant qu'une tribu ennemie, les Wangas, des Indiens aussi sauvages que violents, chassent aussi dans le même coin. Je ne vous en dis pas plus,
bah oui,
évidemment, Nicolas.
Vous m'avez expliqué pendant le son là, que ce sont des élèves de CM2 qui lisaient de l'école d'En Raymond, c'est ça?
Oui, exactement.
On a quel âge en CM2? 9, 10, 11 ans, c'est ça l'âge pour lire ce livre?
Oui, complètement. Les bons lecteurs le liront à partir de 9, 10 ans. Mais on peut très bien le découvrir plus tard. Hein. Ce livre a été écrit, comme on le disait tout à l'heure, par James Oliver Curwood en 1908.
Ah,
alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Nicolas, pourquoi j'ai choisi ce livre qui date de 1908? Parce qu'en fait, ça a été réédité par les éditions Sarbacane dans un format vraiment magnifique. Un immense livre, déjà par la taille et par les illustrations, de véritables tableaux peints par Anton Lomaeff qui donnent encore plus de force à ce roman d'aventure. Ajoutez à ça une histoire d'amour impossible, des rivalités générationnelles entre Indiens, et un rythme infernal, et vous obtiendrez ce très bon roman aux allures de western.
Ça tombe bien, j'adore ça, les westerns. Donc, Les Chasseurs de loups, de James Oliver Curwood, illustré par Anton Lomaeff, c'est aux éditions Sarbacane. Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale toujours pertinente. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.